Eh bien, bonjour à tous dans ce premier épisode du Podcaster Match. Donc, je suis Charles Wickham et avec moi, j'ai Théo Méry.
Eh bien, enchanté. Bienvenue.
Ouais, bienvenue. Du coup, on est sur ce premier épisode de ce podcast sur Magic compétitif. Est-ce que tu veux nous dire un petit peu nos objectifs, qu'est-ce qu'on cherche à faire?
Ouais, bah, on va parler de Magic compétitif un peu plus précisément. Ensuite, un peu l'actu du Magic français. On va essayer de faire des petits points sur les formats, donc dans celui-ci moderne. Et parler un petit peu des events, Grand Prix, Pro Tour, enfin du coup Magic Fest et Magic Championship qui vont arriver. On va vous parler un peu de Ghent, parce qu'on va le faire ensemble avec Charles et Axel.
Tout à fait.
Et puis, bon, vu que récemment, il y a eu des ban-on-ban qui ont un peu shifté la méta, on va bien évidemment parler de ça.
Ok, bah super, on va pouvoir commencer à parler du coup du moderne, comme tu l'as dit. Bon, on va pas parler de ça, mais en ce moment, le moderne, c'est le format phare, si je puis dire, puisque c'est la saison avec les MCQ, qu'on pourra bientôt appeler PTQ d'ailleurs, il y a eu des changements avec ça.
Ouais, c'est pas tout à fait encore très clair, les questions de régional, le player tour event aussi, enfin, beaucoup de choses, la bon. MPL qui bouge un peu.
C'est ça, bon, Magic compétitif bouge beaucoup, il y a toutes les références sur le site de Magic officiel, on va pas vous expliquer ça parce que c'est très compliqué, nous-mêmes on saurait pas vous l'expliquer comme ça tout de suite, mais basically,
en définitive, on fera sûrement un podcast dessus, quoi. Mais...
Ouais, peut-être, bon, en gros, il faut participer à des tournois, gagner, apprendre à l'ordre d'aller au pro tour.
C'est ça.
Bon, alors le moderne, tu vas nous dire un petit peu comment ça se passe depuis un ou deux ans, d'où est-ce qu'on
alors,
vient
alors, il y a. Je pense qu'on peut même remonter, genre au moment où le format a été cassé et que Wizard a commencé à s'en mêler. Donc, il y a eu les petites histoires avec Twin, mais c'est Twin Pod, c'était il y a bien plus longtemps.
Ouais, c'était il y a pas mal de temps. Je sais pas si tous les gens qui nous écouteront connaîtront cette époque. Mais...
C'était il y a 6 ans, je crois, un truc comme ça. Mm-hmm. Un peu loin. Ensuite, il y a eu le petit Eldrazi Winter qui a un peu foutu le zoo, mais ça, pareil, c'est passé. Les bans, ils ont un peu nettoyé ça.
Tout à fait, on a eu Eye of Ugin qui est parti, qui n'a manqué à personne.
Non, absolument. Et, l'erreur de la R&D qui dit « Ah, on n'avait pas vu l'interaction avec les nouveaux Eldrazi, oups !»
Ouais, bah ça arrive, ils ont fait des erreurs aussi avec Felidar Guardian et Saïdi en standard. Ils ne l'avaient pas vu non plus et ça s'est fait ban un peu après.
Et du coup, sur les deux dernières années, il y a eu... les deux dernières années, je pense qu'il y a eu le GP où j'étais à Vegas qui s'était bien passé. Il y avait une montée de Grixis Shadow à l'époque.
Mmh. Tu veux nous raconter un peu ce GP, pourquoi est-ce qu'il s'est bien passé pour toi?
Bon, je pense que la plupart
c'est
des gens
le moment de brag un
courant,
peu.
Mais ouais, on va faire le point brag tout de suite. Il y avait un GP du coup à Vegas, j'étais là en vacances. Et je vais juste décaler mon billet de quelques jours pour pouvoir participer au GP. Mmh. Et en fait, j'ai fait 14-0 pendant les rondes en moderne avec Mono White Eyed Bear. Et sur le chemin, j'ai eu la chance de jouer contre BBD et Craig Wesco.
Ah oui, quand même, des idoles et de les bourrer du coup.
Ouais, j'ai bourré les deux, sachant que je jouais une decklist de Eyed Bear à moi, mais qui était tirée d'une de Craig Wesco. Et
c'est un peu le...
qui jouait.
L'élève qui rencontre le maître.
Ouais, adorable, hein, Wesco, vraiment hyper sympa comme gars.
J'ai pas eu l'occasion de le rencontrer. Mais...
Et suite à cela, du coup, il y a eu toute la période où il y a Pascal Ménard qui a fait découvrir une première version de KCI. Mm. Et ensuite, il y a une deuxième version de KCI qui a apparu essentiellement avec Matnas.
Ouais, grâce à Matnas, c'est la période Matnas où il a gagné. Enfin, il a top 8. 4 GP d'affilée, je crois, et il en a gagné 2, enfin, je crois, ou 2 ou 3.
Une aberration,
un truc insensé.
Et là, c'est la période où Mir Retriever est arrivé dans le deck, et ensuite Spine of Isha, je crois.
Ouais, mais en gros, l'idée, c'est que les gens connaissaient pas le point de règle spécifique qui permettait de sacrifier en même temps 2 artefacts. Bon, c'est un peu technique, si vous avez joué cassé, vous savez comment ça marche, mais en gros, il y avait un point
le
de règle.
Mana window.
C'est ça, il y avait un point de règle que les gens connaissaient pas tout à fait. Et... Quand ils l'ont découvert, ils se sont rendus compte qu'en fait, on pouvait go infinite avec quasiment rien. Et là, le deck, c'est devenu n'importe quoi. Et malgré le fait qu'il soit très difficile à jouer, les gens ont commencé à beaucoup le jouer. Ils faisaient que gagner. Les gens ont dit « Oh là là !»
Les gens ont commencé ensuite à rentrer beaucoup de cartes de side. Et ensuite, il y a side qui a été print, qui a rendu le deck encore plus fort. Et là, ils ont dit « Bon, on arrête tout, on le ban. » Et ça a été ban.
Parce qu'en fait, le problème principal du deck, c'était quand même que il avait pas un très bon match-up contre des decks aggro comme humain, par exemple. qui ou même bon, Death Shadow, c'était pas vraiment réglé avec ça, mais humain, c'était vraiment un mauvais match-up. On pouvait faire exploit à deux pour casser tous les humains à deux qui étaient relous, comme Dahlia ou Meddling Mage ou Freebooter, qui vraiment ralentissaient. Et l'idée, et bon, t'avais Spirit aussi qui pouvait faire le même genre de choses, et en fait, ça, il permettait de fournir des bloqueurs pendant super longtemps au board, qui faisait qu'au final, le deck avait le temps de faire ce qu'il voulait, et après, c'était la folie.
Ouais, il comblait beaucoup des faiblesses du deck en fait, tout en même temps quoi, et ça offrait un excellent plan de side. Enfin, ça faisait beaucoup de choses en même temps qu'on n'avait pas trop envie d'avoir.
Enfin, personnellement, pour avoir joué le deck, ça avait vraiment l'air pété.
Et encore, t'avais pas trop d'XP dessus quand il y a tes bans, non? Tu l'avais
Ouais,
monté.
je l'avais monté un peu au moment où maintenant ça gagnait le deuxième GP. J'ai dit, ok, là c'est mort, on va arrêter, on pose Jund, on pose Colletti de compagnie, on va jouer des cartes fumées. Mais je me doutais que le deck il allait pas rester là longtemps, tu vois.
Ouais, bah après on t'avait prévenu et puis je pense que tout le monde était à peu près au courant du ban. C'est un peu comme bah, ce qui s'est passé récemment. Bon, on en parlera un peu après, mais ouais, KCI c'était vraiment une période assez difficile. J'ai essayé de tweaker toutes les versions d'Aegir possibles pour le battre. Ça passait à peu près, mais en fait à partir du moment où ça y est arrivé, on pouvait juste plus le battre parce que ça c'était une carte trop compliquée à gérer. Ça faisait
Ah
des
bah
one-turn
ça avait
kill un peu
l'avantage
trop
d'être une
violents.
créature surtout qui était du coup un angle d'attaque complètement différent. Des gens qui jouaient 4 Nature's Claim dans leur side et, en fait, ou des Rest in Peace ou des Stony Silence, ça faisait rien contre ça en fait.
Bah, j'avais 3 rip, 3 Stony Silence et ça suffisait plus à battre ça juste à cause de cette carte, ce qui était assez terrible.
Mais bon, une fois qu'Assayas s'est fait ban, on a vu d'autres decks qui ont pas mal grimpé en top. On a eu pas mal les decks cimetières qui sont montés et on a eu
Bah,
aussi Blue
Dredge du
White.
coup.
Ouais.
Dredge qui est bien monté. Blue White, Jace était déjà déban depuis un petit moment, mais il a commencé à faire parler de lui vraiment à ce moment-là.
Ouais.
Parce que, il souffrait un petit peu de la puissance de KCI. Une fois que
Exactement.
KCI est parti, bah, on avait Jace qui était là. Quasiment en même temps, il y a eu War of the Spark qui est apparu.
Tout à
Ce
fait,
qui a donné.
qui a porté à Narset et Teferi.
Donc, suite à l'impression de Teferi et de Narset dans War of the Spark, il y a eu une petite résurgence de White. Donc, en
Ouais.
fait, en gros, pendant l'année, il existait avec les versions de Jace Terminus et parfois un kill avec Entry the Angel ou à la colonnade Snap à l'ancienne. Mais le fait d'avoir eu Narset et Teferi à 3, qu'on l'appelle T3 Ferry,
Ouais,
qui est.
c'est plus pratique à l'écrit.
Ouais, à l'écrit, c'est vraiment, vraiment clean, on comprend duquel on parle. Et il y avait celui-ci, il y avait celui de Dominaria, enfin, il y avait beaucoup, beaucoup d'armes qui sont arrivées en même temps dans le deck. Et la méta a un petit peu shifté, du coup, il y avait. Une espèce de petite méta un peu au moment de Prague où il y avait eu Humain qui était là, KCI qui était là aussi en même temps.
C'était la fin de KCI à ce moment-là où il y avait une petite résurgence de Death Shadow aussi, du coup, qui était très bien
Ouais, c'est
contre les decks
ça.
combo.
Et le début d'Arden Scales aussi en même temps.
Phoenix, qui était
Et
quand même la grosse histoire.
Phoenix n'était pas encore trop présent à Prague, je crois. Il y avait encore, je me souviens de Jouza qui jouait Hollow One, donc c'était encore avant ça même.
Ah, t'as raison. Peut-être que c'était avant le print de Phoenix. En tout cas, ça a basculé au moment du ban de KCI. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de petit déclic. Et à ce moment-là,
Totalement.
les decks graveyard ont pris un peu toute la place qu'avait la menace artefact. En fait, c'est un peu les piliers du moderne, les artefacts et le cimetière.
Ah ouais, j'ai bien perdu contre en GP d'ailleurs, mais
Ça a pu m'arriver aussi.
la spéciale de perdre contre l'Arcboon en finale, là, c'est. Mais non, il y avait vraiment ce côté en fait où la méta, elle a beaucoup bougé sur les 2 dernières années, où à un moment elle était très combo avec KCI. Ensuite, elle s'est un petit peu calmée avec U-White. Il y avait quand même. Enfin, en même temps, U-White, Phoenix, Humain qui était là, des petits decks des Shadows qui traînaient, Scales qui traînaient. Enfin, c'était un petit peu une méta d'un côté qui était très contrôle avec U-White et de l'autre qui était très agressif avec les autres decks.
Il y a eu un petit passage
Et.
aussi où BG-Rock est un peu populaire après le ban
Ça
de
n'a pas duré
KCI.
longtemps,
Ouais, bah moi j'ai joué ça en GP, je me suis fait défoncer, c'était une
quand même.
mauvaise idée. Enfin, je dis, je me suis fait défoncer,
Ça n'a pas duré très longtemps,
j'ai fait
mais
5-3 de
effectivement.
GP d'affilée, quoi, mais c'était pas horrible non
Ouais.
plus, mais.
Après, c'est des decks par nature mid-range discard qui sont quand même très très durs à jouer et qui sont très sensibles au top deck de ton oppo, quoi. Et ça, c'est un peu compliqué. Mais du coup, ouais, UY était un peu redescendu quand Humain est remonté parce qu'en fait, il se trouvait qu'Humain, c'était pas si mal contre UY quand t'avais des gars d'optique, que tu faisais bien
Quand tu nommais
tes mages là.
correctement avec tes mages.
Meddling Mage.
Ouais, exactement, j'avais plus le nom non plus.
Et en fait, ça passait. Étrangement, enfin, en théorie, quand tu vois les deux listes, tu te dis, ouais, je me fais éclater par miracle. Et en fait, bah, ça passe.
Bah après, il y
Je
avait des
pense que.
petits trucs aussi. Quand ton oppo révèle un Terminus sur le trigger miracle, tu peux vialine un mage en réponse et nommer Terminus.
Ouais, tu peux même vial in un freebooter et prendre le Terminus qui vient de piocher.
Ah, c'est sweet.
Et tu
Ouais.
peux aussi faire ça avec un Gadoctile. Et moi, en GP Prague, il m'est arrivé une petite histoire qui est marrante. Je vais la raconter parce que c'est quand même drôle.
Allez, vas-y.
J'avais une vial à 3 que j'ai gardée pendant genre 6 tours. Et en fait, mon oppo avait une Detention Sphere on board avec dessous un Monga Doctile.
D'accord.
Et en fait, il est jamais arrivé à 6 mana. Il était toujours à 4 mana, toute la game quasiment. Et je savais qu'à un moment, j'allais me prendre un top deck de Terminus. Et il y a
Ouais.
ce tour où il m'a joué Jace, il a fait Brainstorm, il a mis deux cartes au-dessus. Donc je savais qu'il y avait un Terminus qui
Ouais,
arrivait.
c'est a priori tu sais qu'il y a un Terminus en top et du coup à la draw step t'as vialine ton Gadok.
Non, j'ai vialine le Reclamation Sage qui a cassé la Detention Sphere, qui a récupéré Gadok.
Ah,
Et du coup, bah,
sweet.
le Terminus a fizzle et mon oppo a concédé. Mais c'était vraiment genre une game que j'ai bien beaucoup appréciée. C'était très, très sympathique.
Ah, ça c'est sympa.
Mais du coup, il y a eu U-White qui est revenu. Et en fait, quand les listes sont un peu parties de Terminus, les decks cimetières qui prenaient assez cher sur Terminus, même Dredge en fait prenait pas mal de. Un peu tarif sur Terminus, ils sont revenus. Donc il y a eu Dredge qui est revenu, il y a eu Phoenix qui est revenu.
Phoenix était
Et
intrinsèquement fort contre White en fait.
c'est pas un match-up que j'ai bossé dans aucun des deux sens, donc
Bah
franchement,
en
je
fait
serais
c'est un
pas
peu
capable d'en parler.
Phoenix c'est un petit peu Zac et un peu comme Storm où en gros il a ce côté inévitabilité où il va pas dépenser beaucoup de ressources pour avoir des choses qui vont tourner et que enfin moi bon, éviter de parler pendant trop longtemps de decks qui sont pas trop qui sont
Bah, c'est
plus du
vrai que maintenant ils
passé.
n'existent plus, mais avec les bans, sans looting, c'est compliqué là.
Ouais, on a eu la phase au GAC, mais je pense qu'on va passer rapidement dessus parce que ça, beaucoup de gens en ont parlé suffisamment.
Bon, on va faire un petit point, mais en gros, ouais, il y a eu le print du coup de Modern Horizon qui a fait énormément de changements modernes, je pense.
Et pas qu'en moderne.
Ouais, mais enfin, c'est vrai, pas qu'en moderne, mais ce qui nous intéresse là pour l'instant, c'est le moderne. Et
On
en
parlera
moderne, bah,
du
une
Legacy avant le
8-8
GP
pour
Bologne.
7. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Mais bon, une 8-8 pour 7 qui est castable avec Convoque et Delve, bah
Clairement.
forcément c'est craqué.
En fait,
Alors
c'est une 8
voilà,
pour
c'était
0 en
marqué
fait.
sur la carte. C'est une 8-8 pour 0 que tu joues T2 très régulièrement. Genre, Karsten avait fait un article dessus, il disait dans genre 60 ou.
59,4%.
Voilà, c'est ça.
Bon, le
60% des
chiffre
games, en
a.
gros, tu peux faire au gag T2.
Ouais, le chiffre a beaucoup tourné sur Twitter. Ça fait partie
Ouais.
des choses qui ont motivé le ban de la carte. Parce qu'il y a eu un premier ban
Cherche.
préliminaire de Breach from Below où les gens pensaient que ça suffirait, et en fait, ça suffisait pas.
Ça, étrangement, en fait, ça a permis de créer une meilleure liste du deck parce que du coup, les gens sont vraiment penchés dessus et ils ont créé une nouvelle liste qui était bien plus forte que celle d'avant. Enfin, c'est l'impression que j'ai eue en tout cas.
Ouais, et puis t'avais pas la course au bridge qui était en fait une carte qui était intrinsèquement plus puissante mais moins résiliente
C'est vrai.
que Satyr Wayfinder, par exemple.
Et puis tu joues un carré d'altar aussi qui bah, tout seul fait pas grand chose et qui demande un peu de setup, etc. Du coup, ça te donnait un plan qui était plus agressif, plus axé, et bah, ça devait rendre le deck meilleur en fait. Mais pareil, c'est un deck que j'ai pas joué, donc je me suis pas trop rendu compte de ça non plus.
Moi je l'ai pas joué non plus parce que j'ai vite compris que c'était pas un investissement intéressant en termes d'argent. Après
Le ban
KCI,
était
ouais, je
proche.
me suis dit que je me suis un peu calmé. Après Deathrite Shaman dans Legacy aussi, je me suis dit que bon, on allait éviter les decks qui allaient se faire ban. Mais par contre, j'ai vu pas mal de coverage avec et clairement,
C'est
on était
ça.
sur quelque chose
Et du coup,
d'extrêmement résilient.
bah, juste après ça, là, il y a quelques semaines, on a eu le ban d'Ugak, qui était bah, tout à fait prévisible, tout à fait
Ouais.
nécessaire.
Tout le monde le savait, mais il y a eu d'autres trucs en
Et ouais, il y a eu deux petites surprises. Donc moi, ça faisait très longtemps que je priais,
plus.
que j'avais fait deux, trois photos sur Twitter que je faisais passer à chaque fois, où genre j'avais mon carré de Stoneforge avec les équipements qui étaient prêts, tu vois.
Et à
J'ai une
toutes
petite
les
bougie.
annonces, on a droit à notre petit message avec les photos de Théo qui nous dit elles sont là, elles attendent.
Et étrangement, en fait, cette fois-là, je faisais autre chose, j'avais complètement zappé le ban. Et je sais pas, en 10 minutes, j'ai reçu genre 10 messages de personnes différentes, des tags dans des conversations et tout. J'ai fait putain, il se passe quoi? Je regarde mon tel et je vois genre en mode des messages en mode bon, content pour l'unban et tout. Je fais qu'est-ce qui se passe? J'ouvre vos Facebook, Twitter, machin, et je vois le truc. Je fais ah, oh, ils ont unban Stoneforge, incroyable.
Ben c'est marrant parce qu'à
Et.
ce moment-là, j'étais au boulot et en gros, j'ai vu les messages et là, j'ai ouvert Card Market et Stoneforge Mystique avait pris 30 € en 10 minutes. C'était insensé.
Ouais, C'est l'effet ban. Il y avait eu ça avec Ancestral Vision, je crois, à l'époque, quand ça avait été déban en moderne.
Ah, je les avais
La
achetés
carte avait
35
augmenté.
euros, quelle horreur. Pire
Ouais.
investissement.
Absolument. Mais bon, du coup, il y a eu ça. Il y a eu le ban de looting aussi, Faceless Looting. Et bah
Qui au
ça, je
final
pense
était un
que.
peu inattendu, j'ai envie de dire, parce que c'est quelque chose où on pensait que ça allait arriver avant. Et au bout d'un moment, on avait fini par penser que Wizard ne le ferait pas. Et
Ouais,
Wizard
complètement.
estimait que Phoenix était un bon meilleur deck à avoir, entre guillemets, dans un format un peu comme Grixis Delver est considéré comme un bon meilleur deck en Legacy.
Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Et en fait, ça fait longtemps qu'on attendait qu'il le banne et on avait juste fini par arrêter d'espérer et se dire bon, bah, ça sera dans le format. Et puis, si la carte pose vraiment des problèmes un jour, il la banne. Et en fait, ils ont fait ça de manière un peu préventive en se disant, voilà, ça va nous donner peut-être plus de marge pour développer de nouvelles cartes, pour donner des armes modernes, etc., sans avoir peur de ça. Ça va aussi calmer Dredge, parce que Dredge existait toujours et c'était quand même un des decks extrêmement énervés en moderne, qui existe toujours, malgré le ban de looting. Il est toujours
Ouais,
joué sous différentes versions.
qui joue maintenant des enablers pour un mana bleu qui me laisse une carte dans
Ouais,
votre deck. Okay.
absolument.
Ce qui montre à quel point le deck est puissant, s'il peut jouer des enablers dégueulasses comme ça et être quand même fort.
Bah ouais,
Ça en dit beaucoup.
c'était assez fort. Il joue Forgotten Cave aussi, qui est une addition de War, non pas de War, de Modern Horizon.
Ouais, qui permet du coup, c'est un land noir qui cycle pour un noir.
C'est le rouge,
C'est
c'est
le
le
rouge,
rouge.
pardon, ouais.
Il
Oui, c'est logique.
cycling pour un rouge. Et du coup, en fait, ça permet du coup, d'avoir des Dredgers Instant Speed, d'avoir des Life from the Loam qui ramènent des caves, qui du coup se cyclent et qui ensuite refont un coup de loam,
En fait,
etc. Du coup,
c'est un
tu
mana
peux.
sink en late game, quoi. Late game,
C'est ça.
pour 3 mana, tu peux récupérer tes lands plus commencer à cycler. Et tu finis par avoir la main pleine de lands, tu peux faire des grosses conflagrates.
T'avances plus vite dans ton plan de jeu, etc. Bon. Et enfin voilà, et du coup, il y a eu ces zone bans qui sont arrivés. Donc forcément, bah, le premier truc qui est apparu, c'est le deck Stoneforge. Moi le premier. Hein.
Logique.
Le soir même, j'avais 6 decklists à tester pour le lendemain, tu vois. Avec des Stoneforge. Et bah je pense qu'on n'a pas vu le bout là.
Non, on a vu des
Clairement.
Stoneforge dans Blue White de manière assez logique, hein, reproduisant ce qu'on avait eu en standard à l'époque, Coblade, et qu'on a en Legacy. Comment ça s'appelle? J'ai plus le nom du deck.
Bah Stoneblade?
Ouais, Stoneblade, tout simplement.
Non?
Oui, c'est ça, c'est Stoneblade. J'avais pas le nom.
U-White Stoneblade, je crois.
C'est le nom du deck. Et on a eu d'autres trucs. On a Bant. Je sais pas si ça s'appelle Bant Blade, ou si c'est encore un nom, ou ça n'a pas encore vraiment de nom.
Avec Soul Herder ou sans?
Sans.
Je pense que c'est Bandblade. Un truc, c'est Arn qui jouait ça, je crois, pas mal en stream cette semaine, j'ai vu.
Bah, c'est une liste en tout cas qui est populaire. On l'a vu en top 8 des MCQ différents, variés, je crois, sur l'MCQ Online et au MCQ Paris ce week-end, je crois.
Ok. Au MCQ Paris ce week-end, il n'y avait pas de U-White avec Stoneforge
Non,
dans le top 8.
il
Il
y
y avait
avait
deux U-White,
deux whites
mais sans Stoneforge.
sans Stoneforge, je le dirais. Il y avait un Dredge, Hardened Scales,
Ouais.
et je me rappelle plus des autres.
Moi non plus. Mais bah d'ailleurs, big up à toi Manu si jamais t'écoutes le podcast et félicitations. Hein,
Ah
parce
oui,
que
belle
c'est
victoire.
un. Et,
C'était
ce qui est très drôle d'ailleurs,
160 joueurs, je
c'est
crois, un truc
que.
comme ça.
Ah ouais, un énorme. On
C'était
était
un très gros
ouais,
MCQ.
160, ouais.
Enfin, c'est une grosse performance en tout cas. On félicite. On suivra ses exploits au
160.
Pro
Et
Tour.
ce qui est très drôle, c'est que bah en fait, U-White, depuis le unban de Stoneforge, il perf systématique, enfin régulièrement en tout cas, avec des Stoneforge. Et là, on a en France, parce que bah, en France, on aime jouer contrôle et ça joue toujours plus contrôle qu'ailleurs.
C'est vrai.
Et là, il se trouve que bah, il y a deux joueurs du White et qu'aucun des deux ne joue Stoneforge. Parce que c'est des créatures et parce qu'ils n'aiment pas les créatures.
Ah bah comme quoi, on n'a pas toujours besoin. Et
Et
en
ouais.
parlant de créatures, on a eu des petites additions quand même chez Modern Horizon. Et il y a mon petit
Oui.
favori dans le lot.
Urza.
Exactement. Urza, non content d'être un personnage de l'histoire vraiment important, et j'étais vraiment content d'un point de vue flavor qu'ils en fassent quelque chose, parce que on avait vu un Planeswalker sur Unstable ou Unhinged, je sais plus, qui était pas très intéressant. Et...
C'était unstable.
Ouais, bon, c'était pas très intéressant. Ça faisait des effets random, ça faisait des trucs cons, comme c'était marrant.
C'est ça.
Mais
Fallait
là,
allumer
pour le
un site
coup,
pour aller chercher les effets qu'il faisait.
ouais, pour le coup, on a eu une carte super bien designée qui fait le café, le thé, le chocolat chaud, les petits croissants, tout en même temps.
Elle t'amène ça au lit et puis elle gagne la partie au passage parce que voilà.
Exactement. Je crois qu'il n'y a
Ah,
pas
c'est.
beaucoup de choses plus agréables que top deck un Urza.
Typiquement, sur la liste des cartes bannables, elle est tout en haut. Hein. J'ai aucun doute sur la question. S'il y a des cartes à ban en ce moment, Urza est en haut de la pile. Hein.
C'est en haut. Je pense que Moxopal a plus de chance, mais c'est pas impossible que Urza soit dans le tas.
Non, je pense que les decks Moxopal sont pas dangereux pour le format, mais je pense que ce deck Moxopal est dangereux pour le format à cause d'Urza. Tu vois le.
Ouais, on va peut-être en parler un petit peu d'ailleurs du deck, parce qu'on a nommé son nom,
Ouais.
mais tout le monde le connaît pas forcément. Si vous n'avez pas suivi le moderne depuis à peu près, je sais pas, 2 mois, le deck n'existait pas avant. Et en gros, du coup,
Bah,
l'idée c'est
d'ailleurs,
que.
il pouvait pas exister avant parce que la fonderie, elle était banne aussi. Elle a été débanne cette année, je crois.
Non, la fonderie, ça fait un moment qu'elle a été débanne, mais c'est juste que comme c'était moisi, personne ne le jouait.
Peut-être. Bon.
Ouais, faire un topter et gagner un PV pour un mana, c'était pas assez fort pour le moderne. Jusqu'à ce qu'on rajoute une shell autour qui est puissante. Du coup, Urza, c'est un deck mid-range combo.
Midrange combo avec tuteur et lock potentiel,
Ouais,
qui fait beaucoup de
exactement.
choses.
Il peut jouer un peu prison. Et en gros, du coup, c'est un peu un enfant bâtard entre Weir Prison et KCI. Mais avec la force de
Il y a un peu de
Splinter
ça. Absolument, ouais.
Swing. Je sais pas si tu serais d'accord avec ma description.
Non, mais je suis un peu d'accord avec ça. Bah, j'ai eu cette expérience au MCQ, là, à Paris, ce week-end, où bon, j'étais à X1, j'étais pas trop mal, je tombe contre un joueur d'Urza. Et game 3, je prends Astrolabe T1, Sword T2, Fonderie T3 et Urza T4. Et je
Ah
regarde ma main, je fais bah j'ai un PTE et j'ai aucune fenêtre pour PTE l'Urza sans prendre combo infini.
ouais. On va expliquer quand même peut-être le combo infini.
Et du coup,
Parce que
bah
ouais,
vas-y, je te
pour
laisse
les gens qui
faire.
connaissent
C'est toi le
pas,
spécialiste.
ouais, c'est vrai que je joue un peu le deck depuis qu'il est sorti, ça me plaît bien. En gros, l'idée c'est que Urza, du coup, donc non content de faire une construct, un construct quand il arrive en jeu, il a deux capas. La première c'est qu'il peut engager les artefacts pour faire un mana bleu. La deuxième c'est que pour 5 colorless, il peut faire un trigger de Mass Desire, si vous connaissez la carte, qui est donc en gros jouer un spell gratos de votre deck.
Tu shuffles le deck, tu révèles la carte du dessus et tu peux le jouer sans payer son coup de main.
Ouais, tu l'exiles en fait, tu peux la jouer plus tard dans le tour si tu veux, si c'est un
Ah
land
oui,
tu peux la jouer, si t'as
encore
pas encore
mieux.
land DF. Non, c'est pas encore mieux parce que tu peux pas la jouer pendant le tour au tournoi. Sauf si c'est un instant, mais comme les seuls instants c'est Weir Invention, que du coup tu peux jouer que à zéro, vu que c'est sans payer le coup, c'est moins intéressant. Et en fait l'idée en gros c'est que si vous avez Topter Fonderie, Sword of the Meek et Urza sur le board, bon faut un peu connaître les cartes, mais l'idée c'est que Sword of the Meek c'est une épée qui revient en jeu quand il y a une 1-1 qui arrive en jeu. Topter Fonderie, c'est un artefact qui peut sacrifier un arto pour faire une 1-1 fly. Du coup, quand t'es sac et tout ça pour un mana. Donc, pour un mana, vous pouvez sacrifier votre sword. Ça fait un 1-1 fly et la 1-1 fly ramène la sword. Et l'idée, c'est que si vous engagez la sword avec Urza, elle vous rend votre mana. Ce qui du coup permet de faire
Ouais,
infini token, infini mana, infini PV.
et en plus de ça, tu peux taper tes tokens pour du mana après.
Tout à fait.
Donc du coup, tu as infini token, infini mana, infini PV. Et
Et
une
tu peux
fois que
jouer
tu
tout ton
as tout
deck.
ça, voilà, tu peux activer Urza à l'infini pour jouer tout ton deck et ciao, bye bye.
Ce dont en général tu n'as pas besoin, puisque la majorité des decks modernes ne sont pas capables de battre Infini Token et Infini PV.
C'est ça, en général, ça part sur une concession assez rapide. Ce qui était typiquement mon cas, hein. On va pas se cacher.
Je me doute. Et en gros, la façon dont le deck est construit, c'est que c'est un deck qui est majoritairement bleu, avec des splashs un peu des autres couleurs, parce que Fonderie, ça coûte un mana bleu et un mana blanc ou noir. Et le deck, en fait, a un fixing qui est quasiment gratuit, parce qu'il joue la base no avec Arcum Astrolabe, et pas mal de decks un peu comme jeu KCI. Et du coup, comme la majorité des spells sont colorless, ben, il n'y a pas vraiment besoin de ce qu'on veut, en fait. Pour jouer, et du coup le deck se permet de splasher un peu dans tous les sens les removals ou les cartes puissantes dont il a besoin.
Il peut jouer des trucs, notamment Dread of Winter de side, qui est une espèce de Wrasse
C'est Dead of Winter.
qui prend en compte les neigeux. Ça fait moins X étant le nombre de permanents neigeux que tu contrôles.
C'est ça.
Vu que le deck joue plein de basiques neigeux pour Astrolabe, Astrolabe qui est un
Astrolabe
neigeux,
lui-même, ouais.
etc. Enfin, il y a beaucoup de moyens de faire des trucs, d'excellentes cartes de side, le tout tutorisable, avec une combo qui tue à la manière d'un twin pour 4 mana, lol, t'es mort. Enfin, le
Bah,
deck a
il faut que
vraiment
t'aies du
tout
burn, donc
pour
ça demande
gagner,
un peu de
quoi.
setup, mais t'as Weir en fait. Weir of Invention permet de tutor les deux parties de ta combo.
C'est ça. Goblin Engineer permet de tutor une partie de la combo aussi.
Et on peut aussi faire de la value, parce qu'en gros la plupart de tes artefacts ils font piocher des cartes. Et du coup le simple fait d'échanger des artefacts entre le board et le cimetière, ce que permet de faire Goblin Engineer, te fait piocher
Te
des
fait
cartes en
piocher des
fait.
cartes. Absurde, mais
Et
ouais.
après, il y a des listes qu'on a vues, comme par exemple celle qui top 8 le MCQ Online, qui jouait à la fois Goblin Ingénieur et Stoneforge Mystique.
Ah, j'avais pas vu ça.
Ça
Ok.
jouait 4 Goblin Ingénieur et 3 Stoneforge Mystique. Bon, je pense que les chiffres sont faux, mais comme le deck est très puissant et que le joueur jouait bien, à mon avis, ça a perfait quand même. Et bon, je pense que ça l'idée est intéressante en tout cas. Et en gros, l'idée c'est que Stoneforge Mystique peut tutor Sword of the Meek parce que c'est un équipement, mais peut aussi tutor Batterskull, avoir des plans B dans les setups où par exemple on n'a pas de quoi combo, ou on a envie de board présence ou ce genre de choses.
Et juste forcer en fait ton oppo à craquer un removal sur la Stoneforge s'il peut pas gérer le Batterskull derrière pour faire passer ton Urza ensuite qui prendra pas ce removal.
Tout à fait.
Et enfin voilà, bon, Urza c'est clairement un des contenders du top méta en ce moment. Il y a un Français qui a top 8 le GP Vegas là il y a pas longtemps,
Ouais, c'est
Julien
Julien
Henry.
Henry,
Très très solide sur le deck.
qui est un joueur très bon en moderne de manière générale et qui déjà était un très bon joueur de KCI à l'époque.
Lanterne aussi, je crois même.
Ouais, enfin bref, il était pas mal dans le coup des decks qui jouaient des cailloux. Il avait joué à pas mal Death Shadow aussi.
Ouais. Et en gros, il joue tous les decks que Kanister joue, à peu
Exactement,
près.
vous pouvez le voir en général dans le chat du stream de Canister si vous suivez un peu.
Ouais, Lizergue, pour ceux qui connaissent pas.
Voilà. Et
Et ouais, non,
il avait
le
fait
deck,
une
y a rien
grosse
à
perf
dire.
avec le deck, ouais, il a bien bossé dessus en tout cas.
Il a gagné le Team Trio à Indianapolis le week-end dernier.
Ah, je savais pas.
C'était Urza, Burn et Jeskai, je crois. Attends, je vais aller vérifier vite
Ah
fait,
oui, j'ai
mais
vu, oui,
quasiment sûr
c'est
que c'était
le
ça.
GP en trio, c'est ça.
Yes. Urza, Jeskai et Burn, voilà.
Tout à fait.
Jeskai Stoneblade, qui est une liste plus mid-range en fait, de Jeskai classique, avec Giver of Ruin, Mystique, Snap, les équipements. Et il joue une petite synergie que j'aime beaucoup, c'est Queller Teferi,
Ah oui, parce qu'en fait,
qui
quand
fait un
tu
petit taf.
récupères ton Queller avec Teferi, ton adversaire peut pas jouer le spell qui est sous Queller,
C'est ça.
c'est ça? C'est cute.
Puisqu'on est pendant ton tour et que du coup bah, son spell peut être joué qu'à tout moment, il pourrait jouer un rituel. Parce que Teferi, c'est une carte absurde.
Ah, Teferi, c'est une carte qui limite un peu l'interaction. J'aime pas trop le design de la carte, mais bon, ça permet de faire des choses. Est-ce qu'on parlerait pas un peu de comment est-ce qu'on voit le format en termes de tiers?
Ouais, si, bien sûr. Bah, moi, je mets Urza en top contender du format sans hésitation.
Ouais, je suis assez d'accord avec toi.
Il y a beaucoup Burn qui revient genre enfin très très fort en fait récemment sur les deux dernières semaines. Ce qui est assez étrange parce qu'on penserait qu'avec Stoneforge et Batterskull ce serait un deck qui disparaît très très vite. En fait pas du tout, il y a l'effet exactement inverse.
Mais je pense qu'en fait c'est une conséquence de Stoneforge, le retour de Burn en fait, indirectement. Parce qu'en gros l'idée c'est que le déban de Stoneforge incitait tout le monde à jouer des decks midrange qui bouillent un peu et qui tuent pas très vite. Et le prédateur naturel de ces decks-là c'est Tron. Tron, quand tu bouillis et que tu fais des Batterskull et des machins, il va mettre un Karn, il va mettre un Ugin et il va tout défoncer. Et Tron, s'il y a un mauvais match-up, c'est Burn.
Mais au-delà de ça aussi, Burn est très très fort contre les decks midrange en eux-mêmes s'ils n'ont pas de carte de side, s'ils sont pas armés en fait contre Burn. Genre June, une liste classique de June sans Collective Brutality, sans Weather the Storm, il va se faire éclater par Burn, tu vois.
Mais parce
Alors que
que
pourtant
lui-même
c'est un deck
utilise
très
ses
fort.
PV pour piocher des cartes avec Bob par exemple, ou
Le Fetch.
va se mettre beaucoup de points avec les fesses, ce genre de choses.
Mais du coup, pour revenir un petit peu au terrain, on aura Urza, c'est sûr. Burn, c'est sûr. Tron, mais je le vois un peu en dessous, Tron.
Ouais, je pense Valakut peut-être est en train de prendre la place de Tron.
Ouais, je suis assez d'accord. Titan Shift Valakut, je le vois plus à la place de Tron en ce moment.
Mais il a fait des
Et
résultats. Je crois qu'il y a eu
Grixis
trois
Death
copies.
Shadow remonte beaucoup aussi.
Je crois qu'il y a eu trois copies dans le top 8 du dernier GP, Valakut.
Ouais, bah ça me surprend pas du tout.
Je suis en train de vérifier.
C'est très, très solide comme deck, c'est très linéaire, très efficace. Ça fait le taf.
C'est pas
Et
trop dur à jouer non plus.
U-White aussi, je pense qu'il traîne entre le tier 1 et le tier 2. Enfin, il est là, toujours solide.
Je pense que c'est un deck qui peut se permettre de pas avoir trouvé sa liste optimale et être quand même très puissant.
Ouais. Absolument. Sinon, après, un peu derrière. Ouais, Eldrathron. Dredge aussi. Dredge, je suis pas fixé encore. J'arrive pas à savoir s'il est tier 1 ou tier 2. Je pense que pareil, il est au même niveau que U-White en fait. Il oscille un peu entre les deux. Mais ça reste un deck qui est très fort.
Je pense que ça serait tier 2. Et je pense qu'en fait, tout ce qui est pas à ce niveau-là, ce qui est pas Urza, Burn et peut-être Valakut, je mettrais ça pas en dehors du tier 1.
Bah, c'est peut-être plutôt dans ce cas-là, en fait, Urza et Burn, ce serait plutôt S tier ou God tier, ce serait
Ouais.
vraiment au-dessus de la méta. Et ensuite, il y aurait le tier 1. Tu sais, il y a un peu ce côté-là en moderne où tu as souvent un ou deux decks qui dominent, mais ils dominent de pas beaucoup, et les autres decks sont tous à peu près à un petit niveau vraiment pas loin, quoi, derrière.
Je vois ce que tu veux dire.
Donc, en fait, peut-être qu'au final, c'est pas trop important de délimiter tier 1, tier 2, mais c'est surtout, en gros, va y avoir Urza, Burn. June aussi qui est très joué, un peu trop joué en fait par rapport à ce qu'il devrait être joué, je
Ouais,
pense.
mais June, ça c'est quelque chose de particulier. Les gens adorent jouer June, et ça je comprends, je fais partie de ces gens-là. J'ai un
Ouais.
deck June chez moi et croyez-moi qu'il est pas slivé. Il est pas prévu d'être joué. Je vais prêter les cartes et j'espère vraiment qu'il y aura des Death Shadow dans le deck que je vais prêter. Parce que les gens jouent trop June quand il faut pas jouer June. Et malgré tous les prints qui ont été faits récemment, avec Vren Six, Collector Roof, Plague Engineer, et il y en a une autre que je rate. C'est quoi le nouveau
Ouais,
prénom?
je suis assez d'accord
Il y a
là-dessus. Je
Weather
pense
the Storm aussi en side.
que
Enfin, il y
du.
a beaucoup d'ajouts qui font que le deck est vraiment pas mal, mais il est pas encore là, quoi.
Je sais plus si, où j'avais vu ça ou si c'est pas toi qui me l'avais dit justement, mais il y a toujours plus de June que ce qu'il devrait y en avoir
Ouais,
dans
ça
une
c'est ce que
salle.
j'aime bien dire. Quelle que soit la salle dans laquelle t'es, il y a plus de June que ce qu'il devrait y avoir, et il y a plus de Burn que ce qu'il devrait y avoir.
Et ça, c'est encore plus vrai en France et en Europe, je pense. Genre pour June et tous les piles un peu contrôlées, Schmidrangy, tout ça.
En fait,
Il y en a toujours un peu trop.
surtout sur papier aussi, hein. C'est un gros investissement. June, c'est le deck le plus cher, et du coup, forcément,
Ouais.
les gens ont envie de jouer leur deck quand ils peuvent. On n'y pense pas toujours, mais ça joue dans les parts de méta. Si tu regardes sur les tournois comme les SCG ou les tournois online, où la plupart des gens sponsorisés qui payent pas leurs cartes, ben, les méta tournent beaucoup plus.
Ouais, c'est vrai. C'est très très vrai. Et sinon, à part ça, si, il y a Mardu Shadow aussi qu'on
Ouais,
entend pas mal
je
parler en
pense que
ce
Death
moment,
Shadow, de
qui
manière
pourrait.
générale, il y a une pile là qui est en train de tourner sur Twitter, je sais pas si t'as suivi, June Shadow,
Oui, j'ai vu ça.
qui est
Antoine
de
l'a joué il y a
Sampardi,
pas longtemps.
je crois. Il me semble, je suis pas sûr.
C'était très bien.
Ouais, et je pense que ça, c'est vraiment un deck qui va monter, parce que, historiquement, Death Shadow, c'est la police du fun pour les decks combo.
Ouais, je suis assez d'accord avec cette affirmation-là. En tier 2 aussi, je pense qu'il devrait y avoir Arden Scales. Que en fait, le deck est toujours très fort. Que il y a quand même, tu peux jouer des listes qui s'adaptent assez facilement en fonction de la méta, rajouter des modules, des cartes comme ça un peu grindy pour grinder en fait les match-up et la méta. Et toujours avoir les kills, le combo est très efficace, très rapide contre les decks un peu mid-range. C'était le deuxième deck en fait auquel je pensais pour ce week-end à Ghent.
D'accord.
Mais je pense que j'ai pas. Enfin, vu que les mocs ils sont partis chez Axel et tout, on va avoir un petit souci de carte.
Vrai que je pense que les Mox Opal seront plus utilisés, seront mieux avec des Urza qu'avec des
Ouais,
Arden
je suis
Scales pour
d'accord.
moi.
Et voilà. Sinon, ouais, si, on avait parlé un peu de Storm aussi
Ouais.
qui revenait.
Il y a une nouvelle pile Storm aussi qui s'appelle Tweedle Storm. Je sais pas si t'as suivi.
Ouais, j'ai suivi, j'ai même joué contre et j'ai trouvé ça vraiment tout naze, quoi. C'était.
J'ai pas du
J'ai
tout joué le
rarement autant
deck, mais.
exploser quelqu'un sur une Talia, quoi. Il y a une Talia qui a touché le board et mon oppo a jamais gagné la partie. Et il a
Ouais,
jamais été close de pouvoir gagner la partie, quoi.
d'accord. On va expliquer un peu comment ça marche pour les gens qui n'ont pas trop suivi. En gros, l'idée, ça vient de la nouvelle carte,
Lotus
Lotus
Field.
Field. Ouais. Du coup, qui est un land qui arrive en jeu engagé, il est hexproof. Quand il arrive en jeu, vous devez sacrifier deux lands. Donc, déjà, ça fait beaucoup de texte négatif sur la même carte. Par
Par
contre,
contre,
il
il
y a
fait
le.
3 mana.
Ouais, c'est ça, il fait 3 mana de la couleur de votre choix quand vous l'engagez. Et du coup, l'idée, c'est que si vous pouvez le dégager, ça va faire beaucoup de mana.
Et tu joues des cartes qui ont imprégation d'arcane, des choses comme ça, et qui permettent en fait de dégager des permanents. Et du coup, tu vas piocher des cartes, dégager ton terrain, leur taper, tu vas netter du mana à chaque fois, à chaque action que tu vas faire, piocher des cartes en plus. Et vu que c'est des cartes avec imprégnation d'arcane, tu les jettes pas de ta main et ils y restent.
Tout à
Et du
fait.
coup, tu continues comme ça à avancer dans ton deck, en étant du mana, et à la fin, tu finis par faire
Tu
Dreadshot dans ta face,
es
je t'ai tué
Passive
lol.
Flame d'abord, tu le refais une deuxième fois.
Oui, voilà, enfin. Bon, globalement, tu stormes et tu blastes ton oppo, quoi.
Et en gros,
Pas
ça,
très original.
la différence que tu as avec Storm Classic, c'est que t'as pas besoin d'avoir une bête sur board pour go off, mais tu as besoin d'avoir un land sur board spécifique pour
C'est
go off.
ça.
Donc, c'est pas tout à fait la même chose.
Land
Après,
qui se
le.
tutorise avec Tolaria West, parce que du coup,
Ouais.
c'est. C'est un land, quoi.
Ou Sylvan's
Et
Cry.
après, il y a des interactions. Enfin, moi, quand j'avais joué contre, je me souviens, je l'avais battu de deux manières différentes. La première, c'était de jouer Talia, parce que bah, il peut plus netter du mana en faisant ses trucs. Ou alors, il doit se mettre dans un setup où il a deux Lotus Field. Et c'est des setups très compliqués à avoir. Et la deuxième fois où j'ai gagné, c'est qu'il a tardé à jouer son Lotus Field. Et en fait, il est arrivé à un point où j'avais une Diel à 3, j'ai joué un Flicker Wisp, j'ai exilé un de ses lands en réponse.
Ah, et du coup,
Et
il
du coup, il
avait.
a dû sacrifier son Field of Lotus Field et un land à côté. Du coup, bah,
C'est pas très
j'étais assez
sympa.
déçu, quoi.
Peut-être expliquer comment ça marche Flicker Wisp pour les gens qui connaissent pas tous ton deck, parce que
Ouais,
ça
Flicker
fait
Wisp,
partie
c'est.
des decks qu'on n'a pas cités ni dans le tier 1 ni dans le tier 2.
Ouais, mais en fait, je pense que c'est des decks qui demandent trop de pratique et qui sont trop charqués un peu, tu vois, sur le côté, quoi, pour qu'ils aient leur place dans des tiers. C'est le tieriste, quoi, du moderne, mais que ça reste un deck, si t'as de l'expérience dessus, qui est assez fort, quoi. Et bon, du coup, Flicker Wisp, 3-1 vol, élémental. Quand elle arrive en jeu, tu exiles le permanent ciblé jusqu'à la fin du tour. Enfin, et tu le renvoies sur le champ de bataille au début de la prochaine étape de fin.
C'est blanc,
Et
pas
du coup,
spécifié quand
bah.
même.
Ouais, c'est un petit détail, mais c'est pas.
Ouais, et ce qui est
Et.
sympa avec ça, c'est que c'est n'importe quel permanent. Ça peut être un land, ça peut être à
Terrain
toi, ça peut être à lui.
compris. Ça touche absolument tout. Et sinon, Etervia, bon, je pense que plus de gens connaissent la
Ouais, non,
carte,
ça
mais.
intervient, ça devrait être bon.
Bon, on va passer sur Etervia. Et du coup, voilà. Et après, bah,
Est-ce qu'il y a
là,
un
on en
tier
est
3?
là.
Est-ce qu'il y a un tier 3 avec tout le reste?
Le tier 3, tu peux jouer ce que tu veux. Tu peux jouer Green White Vizier. Je pense que Eldrathron, c'est tier 3. Je pense que Humain, c'est tier 3. J'ai
Humain,
vu.
on a un peu testé récemment pour le GPGAN et c'est un bon match-up contre Urza pré-board quand même.
D'accord, bon.
Ça, mais bon, post-board, c'est plus dur, mais comme un peu tous les decks. Et ça peut avoir un bon match-up contre Valakut, je pense, si ça. Ouais, je sais pas en fait. C'est pas dit en fait.
Ouais, ça doit pas être horrible, tu dois
C'est bien
assez
contre
aller
Blue
assez
White,
vite,
enfin je sais pas,
etc.
c'est toujours un deck qui est rarement mauvais, humain quand même.
Mais bon, après, pour citer des decks du tier 3, j'ai vu des Jeskai Ascendancy combo qui remontaient un petit peu. J'ai vu Eldrathron, je pense que c'est censé être tier 3, mais que c'est un peu trop joué comparé à ce que ça
Suis
vaut.
d'accord, c'est parce que le deck est facile à jouer, je pense.
Ouais, puis c'est un deck tronc, puis ça décalise, donc ça va burn. Enfin, il y a pas mal de trucs
C'est fort
qui
contre
font que
Jund,
c'est joué.
et Jund c'est trop joué.
Ouais, voilà. En fait, il est joué pour de mauvaises raisons, je pense, mais bon, ça existe. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, si, il y a un Yvemizzet 5 couleurs là,
Ah, une
qui est
pile
trop drôle ce deck.
qui fait
C'est un deck
des
5
envieux
couleurs, Yvemizzet.
sur
Et
MTGO.
bon, le but, c'est de jouer un Yvemizzet 6-6 qui va te faire piocher plein de cartes parce que toutes les cartes dans ton deck sont multicolores. Et voilà, bon, ça vaut. Je pense que c'est des decks qui valent pas grand-chose parce que c'est des mana bases pas stables, que au moins de changements de méta, ça s'écroule. Enfin, il y a quoi d'autre? Il y a Affinity, on a parlé de
Ad
Green White
nauseam.
Vizier déjà, je crois, Ad
Ouais.
Nauseam. Enfin, bon, il y a genre des milliers de decks et ça, c'est cool en moderne. Notamment, il y a Ydvir aussi, je pense que Ydvir, ça a sa place dans le tier 3.
Je pense aussi. Allez, je vais te demander un hot take tout de suite maintenant. Quel est le pire deck du moderne?
Pire deck du moderne, Martyr Life.
Ah, pas mal.
Non, en vrai, je sais pas, mais comme
Non,
ça,
mais
Martyr
c'est
Life.
ton hot take. Ton hot take, ça sera Marty Life. Moi, j'avais Smallpox.
Ah, pas mal, ouais. Là, je suis.
Ok, voilà, pour les amateurs de Martyr Life et de Smallpox, envoyez-nous des tweets de haine, il n'y a pas de souci.
Ponza, je crois que Ponza c'est le pire des modernes.
Ah, à Ponza, c'est pas super.
Non, peut-être pas aussi pire que les deux autres. Mais bon, bref, enfin, il y a quelques decks qui mériteraient pas d'être joués en moderne, mais qui le sont quand même. Et puis bon, bah c'est pas grave, tu vois, c'est cool
Bah, le
et ça arrive.
format est ainsi fait.
C'est ça.
Alors, est-ce que on passerait pas au sujet suivant, parce qu'on a parlé pas mal du moderne, et on pourrait parler un peu de ce qui se passe dans le standard et dans les sorties actuelles.
Les sorties par rapport à Throne of Eldraine, tu veux dire, ou...
Ouais, tout à fait. Donc il y a les previews qui ont commencé, donc ils ont annoncé l'édition suivante qui s'appelle Throne of Eldraine, pardon, où les avant-premières seront le week-end du 28-29 septembre, donc
Septembre.
dans 2 semaines. Ouais. Et franchement, allez voir le trailer si vous l'avez pas vu.
Ah, il est génialissime ce
Il est
trailer, avec
incroyable.
les pains d'épices là,
Ah, mais ne
incroyable.
spoile pas. Mais vraiment, en gros, l'univers, c'est tout
Ah.
ce qui est féerie, conte de fées, un peu Disney, tout ça.
Ouais, les contes de Grimm, Shrek, tout ce que vous voulez, mais
Ouais.
ça fait kiffer, ça fait plaisir.
Ouais, et franchement, montrez-le aussi à des gens qui jouent pas à Magic. Moi, je l'ai montré à ma copine qui joue très peu. C'est vraiment genre un truc que je monte à mes collègues ou quoi, et enfin, c'est
Ouais,
donnant, tu vois.
l'animation est vraiment trop cool, l'histoire elle fait rêver, enfin, non, au top. Vraiment rien à dire sur leur trailer. Ultra clean.
Et les cartes qui nous ont spoilé pour le moment, elles nous donnent envie aussi, je
Alors
pense.
moi, il y en a une qui m'a fait réagir un petit peu, qui m'a un petit peu saoulé parce que j'avais un peu cette impression que il y a pas longtemps Wizard a un peu fait de la merde avec Ugak en nous faisant un spell qui coûtait en gros 0 mana et qui permettait de jouer. Et là, dans Throne of the Eldraine, ils ont pris une carte qui s'appelle Once Upon a Time.
Qui a
Cette carte,
un nom de carte plutôt stylé, admettons-le.
ouais,
Même
le nom est
si.
ultra stylé, l'artwork est stylé.
Et elle nous donne en plus un petit sentiment de déjà-vu avec les spells
Ouais.
gratuits. Donc.
Alors, elle dit que si tu n'as pas joué de sort avant celui-ci, tu peux le jouer sans payer son coup de mana. C'est un
Bah,
sort qui coûte 1 et vert,
c'est avant celui-ci
et
dans
en
la partie, hein,
instance.
c'est pas juste ce tour-ci.
Ah oui, c'est dans la partie, pardon. S'il n'a pas joué de spell dans la partie avant. Et c'est un instant, donc tu peux même le jouer pendant le premier tour de ton adversaire si toi t'as rien joué. Et qui dit, tu regardes les 5 cartes dessus de ta bibliothèque, tu peux révéler une créature ou un terrain, la mettre dans ta main, et ensuite tu shuffles le reste des cartes en dessous de ta bibliothèque.
C'est une sorte d'ancien Stirrings en fait, mais
C'est
sur 5.
un steering sans la restriction du fait que ce soit colorless. Et ça coûte bah, potentiellement 0 mana. Donc, pour des decks comme Tron qui ont besoin de trouver rapidement leurs pièces de Tron, comme des decks Green-White Vizir qui veulent chercher leur combo le plus vite possible, etc., bah,
Ou alors il y a un
c'est le
deck
genre
qui
de.
s'appelle Néoforme,
Ah oui, Néoforme aussi, oui, bien
qui a
sûr.
besoin d'avoir un gros dino.
Qui a besoin d'avoir un gros dino vert. Et enfin, il y a tellement de raisons pour lesquelles il faudrait pas print ce genre de cartes, et ils le font quand même. Donc moi je suis pas très 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 heureux de ce print.
Je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire.
Mais c'est une carte qui a de la gueule. Voilà. Je pense qu'elle va coûter très très cher, qu'elle va avoir beaucoup d'impact dans. Je pense qu'en Legacy aussi, il y a moyen qu'elle ait pas mal d'impact.
Bah moi en Legacy je joue Elf et le fait d'avoir un Gaea's Cradle dans ta main de départ c'est vraiment un truc de malade.
C'est
Parce que
vrai.
Gaea's Cradle pour les gens qui connaissent pas c'est un land qui tape pour un vert pour chaque bête que vous contrôlez. Donc, si vous imaginez que Black Lotus ça fait 3 mana une fois, Gaea's Cradle ça fait 3 mana tous les tours.
3 mana, puis 4, puis 8, puis
Ouais, c'est
20.
ça. Et après, votre adversaire, il a perdu.
Y a ça, il y a aussi les decks Dark Depths, que ça te permet de trouver plus facilement tes pièces de
Ouais,
combo.
tout à fait. Dark Depths, c'est très très fort en
Les
Legacy.
decks Cloud Post aussi. Enfin, je vois beaucoup de raisons pour lesquelles ça peut faire du mal à beaucoup de formats en fait.
Les
Donc moi, je suis
Dekogak.
très très inquiet
Il y a les Dekogak en Legacy, et ils sont très forts.
Ouais, c'est vrai. Ça existe depuis Ogak. Il y en a un deck Depths Ogak d'ailleurs
Ouais,
que j'ai vu
Ogak Dex,
passer.
qui est un des meilleurs decks du format en ce moment.
Ah, je savais même pas, tu vois.
Bah, c'est
Donc,
parce qu'en fait,
j'ai vu la liste passer.
en gros, le meilleur deck du format en Legacy, c'est un 4 couleurs midrange lourd. Et en fait, ce que les midrange lourds détestent, c'est des grosses bêtes qui peuvent revenir quand tu les butes.
Ah ouais, logique.
Ou les 20-20 vols aussi, c'est pas mal.
Ouais, indestructible.
Ouais.
Enfin voilà, cette carte me fait extrêmement peur. Et je pense qu'elle va avoir beaucoup, beaucoup d'impact. Je pense que si elle est pas chère à la sortie, je vais prendre un carré non foil, un carré foil, et que je vais mettre ça dans un classeur et attendre que ça monte.
Il y a
Et
moyen.
voilà,
Faites ça aussi,
ça va partir sur ça.
amis viewers. Faites des choses chouettes avec votre argent.
Enfin, c'est possible que ce genre de carte soit bonne dans certains formats. Hein. Genre, en
Ouais.
standard, je sais pas si ce sera aussi stupide, mais c'est fort probable que ce soit un staple du format instant, en fait.
C'est pas exclu. Ça va apporter des patterns de jeu un peu répétitifs. Moi, de manière générale, tous les trucs qui commencent avant la partie, comme les lines ou. Caverne, Gemstone Caverne ou
Après, c'est des cartes, je trouve qu'elles sont
Serum
beaucoup
Powder, je
moins
trouve.
graves, parce que là, elles te demandent une ressource au moins pour être en jeu. Là, c'est une carte qui te demande aucune ressource, puisqu'elle va se remplacer, ou enfin, elle a d'extrêmement grandes chances de se remplacer, si tu builds ton deck proprement. Et de deux, les lines, elles coûtent cher à jouer si jamais tu les as pas en main de départ. Ça, c'est un truc qui coûte deux à jouer si tu l'as pas en
Ouais,
main de
c'est
départ.
que de
Deux,
base,
c'est très peu
c'est
cher.
déjà une carte playable en fait.
Voilà. Donc, je pense qu'elle est mal designée cette carte, qu'elle va être trop forte et qu'elle va faire des ravages.
Ah, c'est
Ça
possible, mais
m'inquiète un
bon,
peu.
on va arrêter de prendre les choses du mauvais côté. Maintenant, on va parler des bonnes choses. On a sélectionné chacun deux petites cartes dont on aurait envie de vous parler.
Bah, moi, c'était la première, Once Upon a Time.
Allez, moi je vais te parler de la première, c'est Murderous Rider,
Ah, yes,
qui
c'est
existe.
le Heroes Downfall, c'est
Ah,
ça?
tout à fait, hein, qui existe aussi avec un art alternatif qui est magnifique. Tous les alternatifs de ce set, ils sont splendides et franchement, énorme GG à la team qui fait le design. Moi j'adore les cartes un peu full art, un peu promo stylé. Et du coup, Murderous Rider, c'est une des cartes qui est la mécanique Adventure. Donc Adventure, comment ça marche? C'est-à-dire que Murderous Rider, c'est une bête qui coûte 3 mana, un noir-noir, et qui est une 2-3 lifelink. Et quand il meurt, vous pouvez le mettre sous la bibliothèque de son contrôleur. Donc ça, c'est
Yes.
le côté bête, mais en fait, il y a une autre partie du texte qui est Swift
Sera
End.
la plus jouée.
C'est ça. Et en gros, le principe, c'est que Swift End, c'est pour un noir-noir, détruisez une bête ou un Planeswalker et vous perdez 2 points de vie. Et comme c'est la partie adventure de la carte, ça veut dire que quand le spell se résout, vous l'exilez avec un truc dessus, je pense, un compteur adventure ou je sais pas quoi. Et ensuite, vous pouvez jouer la bête. Donc c'est comme si la bête
Yes.
était le flashback du spell, en quelque sorte,
C'est ça.
sans que ça l'exile.
Et
Puisque là, quand
la
ça
main de la carte est
meurt,
très puissante.
ça
Enfin,
retourne sous le deck quand même.
je suis pas sûr que la dernière ligne, le fait que quand elle meurt, ça aille sous le deck, c'est vraiment relevant.
Eh ben, je
Je
pense
pense
qu'il y
que
a
ce
un
sera
deck pour
pas trop
lequel ce
grave.
sera relevant. C'est
Ah.
Traverse Shadow.
Ah.
Et je pense qu'avoir un removal qui pète les bêtes ou les Planeswalkers en Traverse Shadow, qui entre
Ah,
autres
c'est
est
vrai
une
qu'il y a
bête.
ce tuto sur Traverse. Ah, j'avais
Et
pas
en
pensé à
plus, il te met
ça.
deux. Bon, le seul downside de la carte, c'est qu'elle a lifelink, ce qui est un peu aberrant, mais.
C'est vrai que pour Shadow, le fait qu'elle ait lifelink, c'est chiant.
Mais voilà, le fait
Mais
de
ok.
pouvoir traverser des removals, c'est quand même incroyable. En termes de type, en plus, la carte a deux types en même temps dans le cimetière. Créature éphémère, ce qui rapproche du Delirium plus rapidement.
Non, ok, je comprends l'idée. C'est pas stupide, ouais. J'aime bien l'idée.
Ça,
Je
je
sais
pense
pas
que.
si c'est suffisant pour du moderne, mais
Bah, Heroes
c'est
Downfall a
une
été
idée
déjà
qui me
joué en
plaît.
moderne à une époque, peut-être que maintenant c'est trop faible.
Peut-être que l'aspect toolbox tutorisable le rendra justement playable.
Mais...
Je pense que c'est un bon argument en tout cas.
C'est possible. Bon, est-ce que c'est t'as une deuxième carte dont tu voudrais nous parler à ton tour?
Ouais. Alors là, c'est plus un petit kiff perso parce que j'ai vu cette carte passer, j'ai fait oh, elle est trop cool, j'adore cette carte. C'est Giant Killer, c'est Jack et le haricot magique en gros.
Ouais, et on le voit bien
Alors,
sur l'image d'ailleurs.
et on le voit super bien sur l'image, qui est un alternatif qui est incroyable. Moi, je le trouve magnifique là,
Ouais,
l'art
il est vraiment très beau.
alternatif. Et bon, c'est un humain et paysan pour un blanc, qui est une 1-2 du coup, et pour un et un blanc, tu engages une créature ciblée. Et pareil, c'est la carte qui a la mécanique Adventure, et du coup, l'autre côté de la carte, c'est un instant qui coûte 2 et un blanc, et qui dit détruisez une créature de force 4 ou plus.
Donc il peut tuer les géants.
Voilà. C'est le tueur de géants qui tue les géants et qui tape des bêtes. Et les bêtes que tu as envie de taper, bah Magic, c'est des grosses bêtes en général. Donc c'est quand même flavor. Voilà. La carte me plaît bien. Et le petit truc que j'aime bien dessus, c'est ce côté qu'en fait, en Modern Horizon, il y a Capitaine Ranger of Eos qui a été print et qui permet de tutoriser une créature qui coûte un mana. Et du coup, en fait, ça permet dans ce genre de deck de tuto une 1-2. Qui va faire office de removal dans un premier temps, si jamais il y a une grosse bête à tuer, ou sinon juste de bête qui va loquer une autre bête en face.
Un peu de la
Du
même
coup, c'est
manière.
polyvalent et tutorisable. Et je pense que c'est un truc qui peut en faire une bonne carte. C'est un peu limite, mais c'est pas mal.
C'est
Voilà.
intéressant en tout cas. Le fait d'avoir les toolbox, c'est toujours quelque chose de très puissant en Magic.
C'est ça, voilà. C'est ce qui m'a fait vouloir la jouer, quoi. Ou au moins en parler.
Je suis d'accord. En plus, l'art est magnifique, donc
Ouais,
allez, allez
très très
checker.
cool. La flavor est déchire. Humain paysan, enfin,
Le type paysan, je trouve
c'est
ça
vraiment
cool.
Jack, quoi. Non, ça c'était cool.
Alors,
Et
est-ce que
du
je peux
coup,
passer à la suivante ou est-ce que tu as encore des choses à dire?
non, non, bah non, vas-y, fonce pour ta deuxième. Je me souviens plus ce que c'est, mais j'ai une petite idée sur ce que c'est.
Ah, moi, le
Un
mien,
petit
c'est
arpenteur, non?
tout à fait, c'est Oko,
Yes.
Thief of Crowns,
Allez,
donc, qui
j'aurais
est
parié.
le voleur des couronnes. Donc, qui coûte un incolore, un vert, un bleu. Planeswalker légendaire Oko, et du coup, il arrive à 4 de loyauté, comme petit Teferi. Il a trois capacités. Donc la première, c'est un plus 2, ça fait un food token. Donc un food token, c'est un peu comme une clou, à part que quand vous la sacrifiez, au lieu de piocher une carte, vous gagnez 3 PV. Donc du coup, c'est moins bien. Mais bon, c'est toujours bon à
Peu moins
prendre.
bien.
Son plus 1, c'est target artefact hors créature. Donc tu transformes une créature ou un artefact en 3-3 vers Elk et elle perd toutes ses capacités. Donc ça, c'est très intéressant parce que déjà, tu peux transformer tes food tokens en bêtes. Donc c'est un Planeswalker à 3, à 3 qui fait une 3-3 tous les 2 tours. Ou tu peux transformer tes bêtes nulles en 3-3. Ou tu peux transformer les bêtes fortes de ton oppo en 3-3. Ça peut être intéressant si votre adversaire il a un Ogak par exemple. Je dis ça au hasard, qui est une piétinement, vous pouvez dire que c'est une 3-3. Ou si votre adversaire il a une Talia qui vous empêche de jouer votre deck parce que tout coûte beaucoup plus cher, vous pouvez dire ok, c'est une 3-3. Donc tout ça on en parlera un peu plus, mais surtout le dernier effet c'est le moins 5, que du coup il peut faire un tour après avoir fait un plus 2 être arrivé en jeu, qui permet d'échanger le contrôle d'un artefact ou d'une créature que vous contrôlez avec une créature que votre adversaire contrôle qui a un power de 3 ou moins. Comme par hasard, j'ai envie de dire.
Il y a une petite flavor sur la carte, c'est pas mal.
Ouais, je trouve que c'est intéressant. Et en fait, il va piquer la couronne des gens, mais il leur dit que ce sont des. On leur file des 3-3 à la place. Ou
Ben,
de la
j'aime bien cette
nourriture.
carte. Puis le fait que c'est un Planeswalker à 3 qui arrive à 4 compteurs et qui monte direct à 6
Ah, c'est
et que son
immense.
ulti est à 5, ça a un impact très puissant, quoi. C'est le genre de carte en fait que tu dois prévoir son arrivée si tu veux pas te la prendre trop dans les dents, quoi. Et ça, c'est fort.
Bah surtout que, en fait, je trouve que tous les effets sont intéressants, sans être trop puissants. J'aime bien le design de la carte, en fait. Je trouve qu'il n'y a aucun effet qui individuellement est vraiment puissant, mais tous sont
On avait
intéressants. Elle a beaucoup de loyauté, et en fait, dans un deck comme Urza, je vais y revenir en moderne, il y a
c'est
beaucoup
ça.
de cartes spécifiques qui sont puissantes contre nous, du genre Collector Ouf, qui va empêcher d'utiliser tous les artefacts, ou Plague Engineer, qui du coup peuvent être transformés en 3-3 dont on s'en fichera un peu en fait. Les 3-3 Vanilla, on s'en fout un peu. Mais il y a aussi le côté, je peux transformer un Artaud qui traînait là en 3-3. Et c'est comme si je faisais une 3-3 célérité en fait, elle peut attaquer directement dans un Planeswalker.
Il y a un peu ce côté agent Tezzeret de Bolas, du coup, au lieu d'avoir
Exactement.
une 3-3, t'as une 5-5, enfin dans l'autre sens, mais.
Ou d'avoir une certaine 3-3, mais il coûte que 3 mana, il fait des choses différentes, tu peux prendre le contrôle d'une bête adverse si elle est vraiment trop puissante. D'ailleurs, je serais curieux de savoir
Il
ce
est
qui
un
se
poil moins
passe.
puissant, mais il est plus polyvalent en fait,
Ouais,
dans l'idée, quoi.
d'ailleurs, je serais très curieux de savoir ce qui se passe quand tu échanges le contrôle, quand tu prends le contrôle d'un Plague Engineer.
Et ben,
Je pense que ton
c'est-à-dire la
adversaire a
question.
déjà nommé le type.
Oui, tu renommes pas le type, mais il y a moyen que l'effet il switch de côté.
Ouais.
À vérifier ceci, peut-être pas. Peut-être que le truc reste chez toi. Je sais pas, faudrait que je relise les cartes et bon.
Ça dit les créatures du type loisir que vos adversaires contrôlent gagnent moins un moins un. Donc a priori l'effet moins un moins un changerait de côté.
Ouais. Ça, c'est des questions si en fait tu vérifies en fonction du possesseur ou du contrôleur, tu sais, enfin
Ouais, c'est un peu vicelin.
des infos que je n'ai pas.
À vérifier, mais en tout cas, je pense que cette carte pourra avoir sa place en moderne potentiellement et en standard pour sûr.
Ouais, je pense que ce sera une carte qui sera très très forte en standard et qui va faire des trucs. Ça, j'ai pas trop de doute là-dessus.
Ouais, d'autant
Mais.
qu'on a une carte qui a été spoilée aussi qui va bien avec. Si tu penses que je peux en parler maintenant.
Quelle carte, à
À la
laquelle tu
fameuse
penses?
Pool of the Door.
Ah, je l'ai pas vue
Tu
cette
l'as pas
carte.
vue, c'est la Gilded Goose. C'est pour un mana vert, un bird, 0 de fly.
Ah oui.
Quand il arrive en jeu,
Je l'ai vu passer en fait,
il
mais je
fait
l'ai
un.
pas retenu.
Ouais, donc c'est un 0 de fly pour un vert. Quand il arrive en jeu, il fait un food token. Vous pouvez l'engager, sacrifier un food token pour faire un mana de la couleur de votre choix. Donc un peu comme un Bird of Paradise, mais qui demande un setup. Ce serait trop pété en standard Bird of Paradise. Et pour un incolore et un vert, vous pouvez l'engager et ça crée un food token. Et du coup, bah, t'as la fameuse curve de tour 1, tu fais Gilded Goose, et tour 2, tu fais Oko. Et derrière, Oko te refait ton token food pour animer ta Gilded Goose, ou peut donner ta Gilded Goose en face pour prendre une carte trop forte, enfin, transformer ta Gilded Goose en 3-3, enfin genre.
C'est vrai que dans l'idée, ça a l'air vraiment très puissant ce qui se
C'est un peu
passe.
un one-two punch, comme ils disent les Anglais, que à mon avis, on va avoir pendant longtemps dans la séquence.
J'aime beaucoup cette idée en tout cas. Mais il y a moyen que ça ait pas mal d'impact en standard, effectivement. L'autre Planeswalker aussi, qui me plaît un peu moins, le bleu-rouge.
Ouais, Pas super intéressant, je pense.
Bah, il y a des gens qui en parlaient dans le deck Snap parce que du coup le looting est le plus sain, il synergise un peu, mais enfin,
Bah, je pense que c'est
disons
bien
que c'est
avec.
des idées,
Je
mais
pense que c'est bien
que.
avec Dreadnought Arcanist.
Ouais, voilà, Dreadnought Arcanist aussi en
Parce que ça a
standard, ça
l'avantage d'à la
marche.
fois le fuel quand tu discardes et de le pumper si tu discardes des spells trop gros pour qu'il puisse
Ouais.
les.
C'est un peu le même argument que pour Snap du coup, mais plus en standard du coup, donc c'est un peu plus fort vu que bah, le standard est moins powered que le moderne. Mais ouais, bon, en tout cas, le format globalement il est très puissant. Enfin, la nouvelle édition, pardon, elle est très
Ouais,
puissante.
les cartes qui ont été spoilées sont toutes individuellement puissantes.
Ouais.
Les arts sont magnifiques, le flavor est incroyable.
Du coup, j'ai assez hâte. J'ai très peur pour What's Upon a Time, mais sinon, j'ai assez hâte de l'extension dans sa globalité.
D'ailleurs, aujourd'hui a été spoilé les basic heals du set par John Avan sur Facebook. Moi, c'est mon illustrateur
Je les ai
préféré.
pas vus, j'irai voir après,
Et
tiens.
l'art, il est magnifique.
Ok, bah,
Genre
j'irai jeter
vraiment.
un oeil.
Et.
Mais enfin voilà, j'ai plutôt hâte du truc. La vidéo d'intro déchire, le flavor il est cool. Ça change parce que on découvre, enfin il y a des nouvelles mécaniques qui sont innovantes et on passe vraiment à d'autres trucs. Enfin, ça c'est
Ouais,
cool.
puis en plus c'est des mécaniques de value, hein, de genre on est toujours content de pouvoir rejouer sa carte, faire des trucs différents avec. Je pense que c'est toutes les mécaniques qui donnent du choix aux joueurs, elles sont intéressantes.
Ouais, après, faut pas non plus avoir trop d'options parce que du coup, en limité, ça donne des espèces de guerres de grind de l'infini. Et... Bon, voilà. Bon, après, on verra bien ce que le format donne au final, la gueule des communes, etc. Mais non, j'ai j'ai assez hâte de voir ce que ça va être. Je suis plutôt content pour l'instant.
Je suis assez d'accord aussi, je pense qu'on en reparlera une fois que tout le set sera sorti et qu'il faudra se préparer pour les avant-premières.
Ouais. Et enfin, voilà. Mais sinon, on va peut-être parler un peu du GP de ce week-end, non?
Ouais, tout à fait. Du coup, ce week-end, il y a le GP bah, Ghent. Je sais pas si on dit Ghent ou Gand, parce que les Belges disent Gand, visiblement, mais
Et les
bon, c'est
Anglais
un peu
disent
bizarre.
Ghent.
Ouais, c'est ça. Du coup, qui est un GP en team moderne, et donc là, c'est pas un.
Trio.
Ouais, c'est pas un Unified comme il y avait eu avant. Donc là, c'est tout le monde peut jouer le même deck si vous voulez. Et si vous voulez tous jouer Urza, ce sera vraiment la bonne solution.
Peut-être, peut-être.
Je dis ça parce que dans notre équipe, on joue tous Urza sauf Théo qui joue pas Urza. Parce que
Bah,
c'est.
en vrai, l'équipe, ça va être Urza et 8 Bear. Donc, c'est plutôt. Je pense que c'est plutôt un bon choix, en fait, globalement.
Je pense.
J'aurais pu être sur Ardent's Cage aussi, on aurait tous joué 4 Mox Opal,
La
mais.
team Artifact.
Mais. Bon, globalement, c'est pas trop mal ce qui se passe pour l'instant.
Ouais, je suis assez d'accord. Je pense que dans la méta, il va y avoir pas mal de bah, des decks dont on a parlé en tier 1, des Valakut, des Burn, des Urza, des Tron, des Jund.
Ouais, je pense que globalement, il y aura toute la méta qui sera à peu près représentée. Pas de manière équivalente, bien sûr. Je pense que Urza sera un peu plus joué, peut-être. Tron aussi. Enfin. En vrai, c'est très dur à prédire parce que ça va dépendre des choix des joueurs au dernier moment. Ça peut dépendre d'un mec qui va tweeter sa liste la veille et qui a
Ouais,
eu les
ça peut
trois.
dépendre de Canister qui disent « Oh, j'ai fait 12-0 challenge la veille.
Voilà, absolument.
» Pour les gens
Donc,
qui
du
avaient...
coup, c'est un peu hasardeux comme
Je vais
prédiction.
raconter l'histoire pour les gens qui n'avaient pas suivi. En gros, il y
Vas-y.
a eu un challenge Magic Online la veille ou l'avant-veille du Pro Tour, un truc comme ça.
Il a joué Ougak.
Et il a fait 12-0. Il n'a pas perdu une partie. Et là, au Pro Tour, la carte la plus jouée, c'était les Lane of the Void. Il y avait 21% de Ogak dans la salle. Un truc jamais vu
Meilleur
en moderne,
winrate,
quoi.
Ougak quand même.
Deuxième meilleur winrate, tu ça.
Non, il y avait premier meilleur winrate. Dredge Ougak,
Ah oui,
deuxième
Dredge.
winrate Ougak et
Ouais, parce que.
troisième
Ouais, mais tu
Urza.
flippotes, c'est le même deck, hein, presque.
Non, mais c'était pour pointer l'absurdité du truc, quoi. Et enfin voilà, j'ai assez hâte d'y être.
En plus, je pense
On
que ce sera une
va
bonne
débarquer
expérience. Le GP en
le
team,
jeudi
c'est
soir,
vraiment
faire
sympa.
le MCQ en moderne. Enfin, moi je vais le faire en tout cas, je sais pas pour toi, mais.
Bah, je sais pas trop, je vais faire du moderne, c'est sûr. Après, je sais pas exactement ce que je vais faire. Si y a un MCQ, je pense que je ferai ça.
Il y en a un le vendredi.
Je prendrai mon cube. Si en tout cas, si vous êtes
Voilà.
sur Gang, vous voulez nous faire un petit coucou, ben n'hésitez pas. C'est toujours cool de
Ouais, bien
revenir.
sûr. Puis ceux qui suivaient Charles à l'époque en stream ou qui me suivent moi en stream ou quoi, bah pareil, n'hésitez pas à passer. Hein. Ça fait
Pour
toujours
avoir quoi.
plaisir. Bon, pas en game, hein, parce que quand t'es en game, etc., que c'est un match qui compte, s'il y a quelqu'un qui vient de parler dans une langue que ton adversaire ne connaît pas, tu peux avoir des problèmes. Enfin,
Ah,
voilà.
c'est
Donc.
bon moyen de prendre une game là, ça.
C'est ça, pas pendant les parties compétitives, quoi, mais en dehors, quand t'es là posé, tranquille et tout, n'hésitez pas, quoi.
Yes. Du coup, est-ce qu'on pourra peut-être mettre nos decklists dans la description? pour les gens qui veulent savoir à peu près, je
Voilà,
pense.
moi j'ai pas de soucis. Enfin, ma decklist, je la partage régulièrement de toute façon.
Ouais, moi non plus, j'ai pas de soucis. Ça ressemblera beaucoup à ce qu'a joué Arlan Firar quand il a gagné les SCG, parce que son deck est très bien.
Ouais,
voilà,
ça va.
n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, sur Facebook. Donc ton Twitter, toi, c'est Inoff, c'est ça?
Non, c'est @Théomery,
Théo.
Théumery.
Pas compliqué. Moi,
Non,
c'est Wicked
prénom long.
Fridge, Wicked, Ethery DGE, comme un frigo maléfique. Et voilà, si vous voulez nous demander un truc, nous dire quoi que ce soit, nous laisser une petite question, on a aussi créé un channel Discord au cas où les gens veulent nous rejoindre et voilà, discuter, poser des questions pour les épisodes suivants. N'hésitez pas à nous faire un petit retour sur ce que vous avez pensé de cet épisode, qu'est-ce que vous devriez voir pour la suite, quand.
On va essayer de faire ça à peu près régulièrement, mais on n'est pas encore fixé vu que c'est un premier épisode pilote.
Voilà, c'est ça. Normalement, ça devrait être disponible sur toutes vos plateformes, donc iTunes, Podbeans, Stitchers, je sais pas, faudrait que je vérifie. Moi, j'ai Podcast Addict, ça marche dessus. Enfin, tous ces trucs-là, n'hésitez pas à nous dire si un truc où ça marche pas. Et puis voilà, on vous
Si
dit
vous
à
voulez
bientôt.
nous en parler en personne, sur un stream, sur Facebook, sur un event, peu importe, pareil, hein, n'hésitez pas.
Yes.
Et voilà.
Et ben à bientôt.
À bientôt sur Podcaster. Mage.